Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.
Les violences qui ont éclaté suite à la mort de Naël ont enflammé une fois de plus les banlieues. Beaucoup ont commenté depuis, mettant en cause les réseaux sociaux, le capitalisme, la politique de la ville. Depuis les années 50, les ZUP sont devenus des ZUS, des ZFU, puis aujourd'hui des QPV. Depuis 2014, 49 milliards d'euros ont été investis par l'ANRU pour la rénovation urbaine dans les banlieues. Et pourtant, le 27 juin dernier, tout a pété. Comme à l'accoutumée dans cette émission, nous allons essayer de comprendre ce sujet de société par le prisme de l'architecture. Quelle est la place de l'individu et du collectif dans l'architecture des cités? Peut-on parler d'une identité commune aux quartiers populaires? L'architecture et l'urbanisme peuvent-ils apporter des solutions face à la crise des banlieues? Et nous avons invité trois personnalités qui nourrissent depuis de nombreuses années la réflexion sur la transformation des villes et des banlieues. Guy Burgel, géographe, Denis Merklen, sociologue, et Xavier de Jarcy, journaliste. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Alors au sommaire de cette émission, d'abord l'édito de David Trottin, puis nous irons interroger Susanna Lagic et Gérald Eluy, fondateur de l'atelier d'urbanité Roland Castro. Et enfin, l'agenda de Dominique Boré, président d'honneur de la Maison d'architecture d'Île-de-France. Alors Xavier de Jarcy, vous êtes journaliste à Télérama depuis 2000, vous écrivez sur l'architecture, la ville, le design, le graphisme. Vous êtes notamment l'auteur avec Vincent Rémy du fameux article paru dans Télérama en 2010, « Comment la France est devenue moche ». Oui. C'est un article qui a eu le mérite de mettre un qualificatif clair et précis sur nos entrées de ville et plus. En 2015, vous récidivez en publiant Le Corbusier, un fasciste français chez Albin Michel, autre pavé dans la mare des architectes et urbanistes. Vous faites un lien entre le passé fasciste du célèbre architecte et des idées radicales d'urbanisme moderniste. On va en parler peut-être un petit peu. Enfin, vous écrivez en 2016 Les Abandonnés. C'est l'histoire des cités de banlieue, toujours chez Albin Michel, dans lequel vous donnez une lecture historique du problème des banlieues. Bonjour Xavier de Jarcy.
Bonjour.
Denis Merklen, vous êtes sociologue, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle et chercheur au Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques, le CNRS-USN. Vous êtes d'origine uruguayenne, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la ville, dont Quartier populaire, Quartier politique, donc chez La Dispute en 2009. Enquête de classe populaire en 2017 et en 2020, pourquoi brûle-t-on les bibliothèques ? Aux presses de l'ENSIB. Vous venez de publier un travail de recherche sur les cités que je me suis procuré et que j'ai lu avec beaucoup d'attention, Les Indispensables, sociologie des mondes militants aux éditions du Croquant. Bonjour Denis Merklen.
Bonjour.
Et enfin Guy Burgel, ancien normal sup de la rue d'Ulm et agrégé de géographie, vous êtes longtemps consacré à la croissance de la capitale grecque. Vous avez consacré l'essentiel de votre carrière à l'université de Paris-Nanterre où vous êtes professeur. Vous y avez fondé le laboratoire de géographie urbaine et le séminaire analyse et politique de la ville. Vous y éditez avec votre épouse Galia Burgel la collection Ville en parallèle. On ne compte plus les livres que vous avez écrits. Moi, j'en ai compté 18, mais il y en a peut-être beaucoup plus. Quasiment tous sur la ville. Hein.
Le premier était sur la campagne.
Ah oui, alors c'est la campagne. Sur un village crétois. Ça reste sur la géographie. Alors, je rappelle que vous avez 84 ans. Vous êtes membre de l'Académie d'architecture. Vous écrivez régulièrement dans différents quotidiens nationaux et en octobre dernier, un article qui a attiré notre attention, Émeute urbaine et politique de la ville, qui était paru dans Métropolitique. Bonjour Guy Burgel.
Bonjour.
Alors pour commencer, on va écouter l'édito de David Trottin, un édito. Alors accrochez-vous.
C'est parti. Dorénavant, la rue ne pardonne plus.
Nous n'avons rien à perdre car nous n'avons jamais eu.
À votre place, je ne dormirai pas tranquille.
La bourgeoisie peut trembler, les caïras sont dans la ville.
Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu?
Allons à l'Élysée brûler les vieux.
Et les vieilles, faut bien qu'un jour ils payent.
Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille.
Où sont nos repères? Qui sont nos modèles?
De toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes.
Brisé les rêves, tari la sève de l'espérance.
Oh, quand j'y pense.
Il est temps qu'on y pense, il est temps que la France
daigne prendre conscience de toutes ses offenses.
Fasse de ses hontes des leçons à bon compte.
Mais quand bien même, la coupe est pleine.
L'histoire l'enseigne, nos chances sont vaines.
Alors arrêtons tout, plutôt que cela traîne.
Ou ne draine même encore plus de haine.
Unissons-nous pour incinérer ce système.
Yeah. Ça va être dur de faire un meilleur édito que celui fait par NTM dans Qu'est-ce qu'on attend en 1995, il y a 30 ans déjà. Les violences urbaines, on sait tous ce que c'est. Dès 1993, en France, elles sont classées par la Direction centrale des renseignements généraux en 8 paliers, dont 2 qui relèvent de l'émeute. Le 7e palier des violences urbaines est caractérisé par l'émeute urbaine rapide, spectaculaire et violente, mais sans lendemain, avec saccage d'un quartier sans organisation préalable. Le 8e palier, quant à lui, inclut des saccages, des pillages, agressions de particuliers, affrontements entre les émeutiers et les forces de l'ordre.
Alors c'est globalement ce trait de déniveau que se situe le 2 juillet dernier.
Oui, et le déclenchement est toujours le même. Un jeune gars du quartier meurt suite à une interaction avec les forces de l'ordre, justifiée ou non, ça pète, ça caillasse et ça brûle. Les écoles, les commerces, les mairies, les bus, les cages d'escalier, des immeubles, des gens qui les habitent, les voitures de police, avec ou sans policiers maintenant, et même les pompiers. Brûler une école, son école, les bonnes gens ne peuvent pas comprendre. C'est quoi le mécanisme qui pousse des gamins à foutre le feu ? On y voit dans un premier temps un acte de rébellion envers et contre le pouvoir et l'État que l'on connaît dans les quartiers sous la double forme de la carotte des allocations et surtout du bâton policier. Mais aussi on peut y voir une automutilation d'adolescents en crise qui se fait du mal pour montrer qu'il va mal. Un acte initiatique et viril où l'on doit affronter un grand danger pour le passage de l'enfance dans un monde adulte pourtant pas très gai et violent. C'est aussi pour une génération s'inscrire dans l'histoire des plus anciens, être à la hauteur de ceux de Chanteloup-les-Vignes en 90 où fut tournée La Haine. Vaux-en-Velin en 93 ou Montfermeil en 2005. C'est montrer la force et la déterre de son terre-terre, rentrer dans la légende, écrire l'épopée qui fera des lyrics et des vidéos pour les jeunesses à venir et plus prosaïquement des scores sur TikTok. C'est une manipulation des minots des cités par les tenants de l'économie souterraine, des quartiers, pour montrer leur pouvoir. Ou plus bêtement, c'est un e-sport comme un autre où l'on trompe l'ennui, la frustration, l'esprit de compétition adolescent en cassant ce qui vous entoure, en bande, en groupe, dans cette famille qui remplace la famille, dont les bonnes gens diront qu'elle est des pour de multiples raisons.
Bon, et l'architecture, l'urbanisme dans tout ça ?
Les grands ensembles et leur reconstruction n'ont pas inventé le problème du ghetto des pauvres, mais ils ont donné un cadre esthétique contemporain. Les gestes forts et abstraits présentés dans les pages des numéros d'architecture d'aujourd'hui des années 60-70 sont depuis longtemps les décors des cultures urbaines et par extension ceux des émeutes. Aujourd'hui, malgré les milliards investis dans les programmes de transformation des quartiers, c'est l'architecture écolo de l'ANRU qui brûle. Et le bois, la paille et le chanvre, ça part vite.
Merci David pour cet édito et puis quel flow hein. Alors première question David de Jarcy, dans votre livre justement intitulé Les Abandonnés, vous retracez l'histoire des cités un peu qui ont amené à ce qu'on vient d'exposer là, c'est-à-dire l'explosion et les émeutes. Et d'ailleurs les émeutes datent de bien avant NTM.
Oui, alors moi je raconte l'histoire de la construction de ces cités de banlieue qui commence après la guerre et qui se termine officiellement en 1973 par une fameuse directive qui met fin à ce qu'on appelait les grands ensembles. En cherchant dans les archives, moi je trouve une première émeute urbaine à La Courneuve en 1971, donc bien avant, à peu près 10 ans avant celle de la banlieue lyonnaise. Qui ont été beaucoup plus médiatisés. Qu'est-ce qui se passe à La Courneuve en 1971 ? Donc c'est la cité des 4000, très grand ensemble avec des bars gigantesques, où dès le départ ça se passe pas très bien, et un soir d'hiver, il y a un jeune qui fait un peu de chahut dans un café, et le cafetier lui tire dessus et le tue. C'est suivi d'une manifestation très importante. Il y a des jeunes qui viennent de Paris, à peu près 500 jeunes qui affrontent les forces de l'ordre, gaz lacrymogène, etc. Quoi. C'est parti. Et ça se termine pas là, puisque quelques mois plus tard, le café de ce monsieur qui a tiré sur le jeune. Explose, il y a un attentat à la bombe, et il y a deux autres cas similaires en France, et avec pour seule revendication une pancarte dénonçant le racisme anti-jeune. Alors je pense qu'il y a déjà deux éléments très importants, c'est les jeunes et le racisme. Et d'ailleurs, quand on parle de racisme à cette époque-là, c'est pas du tout les immigrés qui sont en cause, hein, puisqu'ils n'habitent pas encore. Les grands ensembles, ils commencent à y habiter, mais ils sont très peu nombreux à l'époque. Mais il y a un sentiment d'exclusion de la part des jeunes qui s'exprime sous le terme de racisme. Et je pense que ce sentiment d'exclusion, il ne fait qu'empirer, quoi.
Et alors, vous parlez dans votre livre d'hygiénisme social. Qu'est-ce que, selon vous, est-ce que c'est lié à une espèce d'idéologie précise de la part des architectes?
Oui, oui, il y a tout un discours des architectes selon lequel il faut mettre fin à l'anarchie des banlieues pavillonnaires, puisqu'on a construit un petit peu n'importe comment à partir des années 20-30, des pavillons de banlieue, à Goussainville, etc. C'était presque de l'autoconstruction. Donc ça allait pas du tout, c'était le désordre, il fallait mettre de l'ordre. C'est pour ça qu'on a construit des grands ensembles collectifs, parce qu'on pensait que ça allait fortifier le sentiment d'appartenance à la communauté locale et nationale.
Et donc pour vous, c'est une des choses qui explique un peu cette violence, cette radicalité de l'urbanisme engendre une forme de violence ensuite de la part des gens qui y habitent, ou comment vous expliquez un peu ça?
Alors après, c'est un petit peu... là, c'est un raccourci rapide, hein, parce qu'il y a eu des émeutes urbaines dans d'autres formes d'habitat que les grands ensembles. Hein, aux États-Unis, en Bretagne, il y a aussi eu des émeutes dans des quartiers pavillonnaires. Donc la forme urbaine n'explique pas tout. Par contre... il y a des choses qui peuvent peut-être accentuer effectivement ce sentiment de relégation, d'injustice. Le fait, par exemple, que ces immeubles soient très différents des quartiers anciens, ça provoque une sorte de stigmatisation. D'ailleurs, ça a été dit dès le départ. Hein. Dès les années 50, quand les premiers grands ensembles sont sortis de terre, certains ont dit « mais attendez, là... finalement, vous faites des quartiers spécifiques pour les pauvres. C'est une forme de
ségrégation. Les clapiers à lapin.
Voilà, des clapiers.
Cage à poule, les clapiers à lapin. Ouais.
Les cités dortoirs. On parle très vite d'univers concentrationnaire. Hein. C'est quand même un mot très violent, très fort, dès la fin des années 50. Donc, cette stigmatisation, elle commence très tôt. Et puis il y a tout un tas de... Pourquoi est-ce qu'on construit ces quartiers en périphérie des villes? Ben, c'est parce qu'on choisit le terrain le moins cher. Donc il y a tout un problème de crédits affectés au logement qui sont en fait toujours très insuffisants, très en dessous des besoins. Il y a les équipements publics qui n'arrivent jamais au bon moment, qui arrivent toujours en retard. On ne sait pas très bien qui doit financer les écoles. Par exemple, à La Courneuve, donc la cité des 4000, où il y a cette première émeute urbaine, c'est une cité qui est construite par l'office d'HLM de Paris. Donc normalement, ça devrait être Paris qui finance les écoles. Mais le conseil municipal de Paris refuse de financer ces écoles. Donc c'est la mairie de La Courneuve qui est obligée de les construire elle-même en s'endettant et en attendant une subvention de l'État. Donc ça se passe dans de très mauvaises conditions. Les classes sont surchargées, les enfants sortent de l'école très jeunes, à 13 ans, ils sont désœuvrés puisqu'ils entrent en apprentissage un an plus tard. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs qui ne concernent pas seulement l'architecture.
Guy Burgel, justement, est-ce que vous partagez cette histoire dans votre... vous avez beaucoup écrit un peu sur la croissance des villes et le développement surtout des cités. Quelle est votre expérience par rapport à ça, et votre regard sur ce développement des villes de banlieue?
Moi, je crois qu'on fait une triple erreur. C'est ce qui a motivé, vous faisiez allusion, Olivier Leclerc, à cette tribune ou à cet article dans Métropolitique. Moi, je trouve que les explications qu'on donne sont courtes. Alors bon, c'est une question sociale d'abord. C'est pas une question spatiale. Pour moi, c'est une question sociale. Et la question sociale, elle a un double démérite dans les explications courtes. C'est qu'elles sont, ces questions sociales, soit ethnicisées. Voilà. C'est pas les pauvres. C'est pas les élèves en difficulté. Non, ils sont d'origine maghrébine, ils sont d'origine subsaharienne, etc. Et bon. C'est une dimension, mais ce n'est pas une dimension fondamentale. Bon. L'autre dimension aussi qui ne semble pas fondamentale, c'est ce que j'appellerais la politisation, mais au mauvais sens du terme finalement, c'est de dire, voilà, on n'a pas appliqué la loi SRU. On n'a pas appliqué la SRU, il n'y a pas de mixité sociale, donc si vous rassemblez, le maire de Trappe est très fort là-dessus, dans les Yvelines, si vous rassemblez 80% dans des grands ensembles, et que le maire de Maison Lafitte, il prend toujours Maison Lafitte en ligne de mire, il n'en a pas 5%, ça ne peut pas marcher. Bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Bon. Et puis, la troisième explication, j'ai perdu le fil de mon propos. Oui, elle est culturaliste. Elle est culturaliste, c'est de dire, voilà, tout ça, c'est la faute des réseaux sociaux, c'est la faute des mères qui ne peuvent pas, parce qu'elles sont seules, tenir leurs enfants. Et rappelez-vous, la boutade, mais quand même, c'était un peu dur, du préfet de l'Hérault, une claque et au lit. Bon, alors tout ça tient un peu la route, mais pas la route. Pourquoi ça tient pas la route? Et moi, je voudrais revenir finalement à ce que j'appelle mes fondamentaux qui sont acquis. Mais vous avez fait allusion à mon âge, mais qui sont acquis dès les années 70. Bon, un, c'est Henri Lefebvre. Bon. Au fond, la ville. Le droit à la ville, oui, mais surtout la production de l'espace. C'est-à-dire qu'au fond, c'est telle société produit tel espace. Le seul problème dans cette dialectique, c'est que justement, l'espace n'est jamais neutre. Vous venez de le montrer par votre exposé précédent, l'espace n'est pas neutre. Autrement dit, il y a des rétroactions de l'espace. L'espace des grands ensembles des années 60 ou 70, même s'il est toujours hérité en termes de structure matérielle, il n'est pas le même, il n'est pas le même dans le ressenti, dans l'habité, dans les années 2020. Voilà, donc, la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, il y a ce fameux article, et le sociologue ne me démentira pas, bon, il y a le fameux article de mon camarade aujourd'hui disparu, Chambourdon, et le maire de 1970, la proximité, on dit toujours la mixité, mais eux, ils démontrent très bien dans les années 70, justement dans le peuplement initial des grands ensembles, que ce mélange social, puisqu'il y a à la fois des couches moyennes et des couches populaires, prolétarisées, etc., eh bien, ça signifie pas proximité sociale. Proximité spatiale n'est pas proximité sociale. Autrement dit, la mixité, c'est pas le nec plus ultra. Et là, je vais revenir directement à votre question. Il n'y a pas un rapport direct entre la forme architecturale, le contenu social et le ressenti des habitants. Mon maître Marcel Roncaiolo, quand il montait à Notre-Dame-de-la-Garde, me montrait toujours dans les quartiers sud. Il y a un grand ensemble, qui est exactement identique. On voit les quartiers nord, à la Bonne-Mère, on voit les quartiers nord, on voit les quartiers sud. Bon, c'est finalement le même architecte qui a conçu l'un et l'autre, et pas du tout avec les mêmes résultats, évidemment, d'intégration sociale, d'intégration urbaine. Autrement dit, il n'y a pas un rapport direct entre la forme architecturale, la forme spatiale, Le malaise, il est social. Et c'est pour ça que je terminerai pour l'instant là-dessus. Bon, c'est pour ça que finalement, l'essentiel, vous faisiez allusion, Olivier Leclerc, aux 44 milliards dépensés. Quand la Cour des comptes allonge, si j'ose dire, la durée de temps, elle arrive à 100 milliards depuis le début de la politique de la ville, même si ce n'était pas encore les lois Borloo, etc. Bon. On a trop dépensé pour l'urbain et pas assez pour l'humain. Ça me semble une évidence. Et encore une fois, c'est pas parce que mon métier était quand même d'être pédagogue, mais l'échec de l'école. Et là, mon âme pleure là. L'échec de l'école est patent. Comment voulez-vous? Et on retrouve finalement ces jeunes, en effet, qui peuvent devenir à la fois des victimes, je pense à Naël, ou des émeutiers. Et il y a plus d'émeutiers que de victimes, malheureusement ou heureusement. Bon, eh bien, c'est, encore une fois, L'école est la racine de tout, et y compris non seulement dans l'acquisition de connaissances, non seulement dans la formation professionnelle, mais dans l'acquis des valeurs républicaines. On insiste beaucoup là-dessus. Donc voilà, donc un bémol, même si je suis au milieu d'une ambiance très architecturale, un bémol sur le déterminisme de la forme. Il n'y a pas de déterminisme
on
de
va,
la forme.
On va voir, c'est un peu le sujet qui anime cette émission. Alors, Denis Merklin, justement, vous à propos d'humains et des gens qui vivent dans ces cités, vous avez fait toute cette étude. Vous évoquez une forme d'identité commune, partagée par toutes ces personnes qui vivent dans ces quartiers populaires en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a, justement, on en parlait tout à l'heure, Xavier de Jarcy en parlait, sur ce sentiment d'appartenance à un territoire très marqué architecturalement. Est-ce que vous avez ressenti ça dans votre étude, dans votre observation des banlieues, des cités populaires?
Oui, c'est une série de beaucoup d'enquêtes que je mène depuis longtemps et qui ont une caractéristique particulière, qui sont avec fort contenu de terrain, c'est-à-dire de l'immersion de longtemps. On peut parler d'ethnographie ou de type ethnographique, mais il y a peut-être pour introduire ou pour avancer dans la complexité, je sais que c'est toujours fâcheux parce qu'on voudrait donner des schémas ou des clés d'explication ou de compréhension assez simples et parfois ce n'est pas évident. L'une des questions des émeutes, c'est que les émeutes ne peuvent pas être séparées de ce qu'on dit sur les émeutes. L'acte, l'événement, disons, est prolongé aujourd'hui parce que nous sommes en train de faire. L'une des choses que les habitants des quartiers vous disent, le premier quand vous arrivez, moi sociologue ou un journaliste par exemple, c'est ce qui est dit dans la presse, ce qui est dit dans l'espace public. Pourquoi? Parce que l'émeute a une fonction éminemment symbolique, ce n'est pas un rapport de force, ce n'est pas un mouvement social qui cherche à établir un rapport de force. Il cherche à ce que quelque chose soit dit dans l'espace public, et notamment en sortant ce qui est périphérique, marginal, caché, souterrain, ce qui n'arrive pas à l'espace public local et national, à ce que ça arrive. Et c'est nous, entre autres, quand nous venons dans les médias, par exemple, la parole politique, évidemment, fondamentalement, qui va qualifier tout cela. Alors, l'une des opérations qui est faite très fréquemment, c'est de couper l'événement à un moment donné, c'est-à-dire circonscrire l'historicité de l'événement. Par exemple, on va dire, ça arrive toujours systématiquement de manière répétitive à partir d'un certain moment dans un conflit avec la police où un jeune meurt, et aussitôt on l'oublie et on commence à parler d'autre chose. De toute évidence, il n'y a pas un seul acteur, les jeunes qui se révoltent. C'est une conflictualité composée d'acteurs, parmi lesquels les urbanistes, parmi lesquels les architectes, parmi lesquels la politique de la ville et l'État qui décentralise à partir du début des années 80, mais essentiellement les institutions qui font cet espace. Et là, je rejoins ce qui vient d'être dit. Et il y a l'école qui fait cet espace et il y a la police qui fait cet espace. Mmh. Et nous parlons beaucoup trop peu de police. Que fait la police dans cet espace? Comment elle instruit, elle informe, elle façonne cet espace? Est-ce que la police arrive de l'extérieur pour y intervenir ou est-ce qu'il y fait partie? Est-ce qu'elle habite cet espace ou c'est une force qui vient quand il y a un problème? Et bon, on sait qu'il y a un énorme problème des doctrines et l'une des choses qui distingue la France et en conséquence des émeutes de ses voisins, par exemple, c'est la manière dont le ministère de l'Intérieur donne une doctrine à la police à partir d'un certain temps. Donc ça, c'est un premier moment. Pourquoi? Parce que contrairement à d'autres pays, notamment les pays de tradition libérale ou les pays plus pauvres, en France, les quartiers populaires sont faits par la puissance publique. C'est un espace fait par les institutions. Et donc le conflit est un conflit profondément institutionnalisé parce que la vie quotidienne de ces personnes trouve solution et origine aux nombreux problèmes de la vie quotidienne des familles et des personnes dans les institutions. Les institutions sont à la fois le salut, quand vous passez d'un bidonville à un grand ensemble, hop, quel bonheur, et le problème quand l'ascenseur est en panne. Si vous avez de la moisissure dans la chambre des enfants et que vous devez aller faire, non pas à un propriétaire ou payer quelqu'un pour le réparer, mais aller taper à la porte de l'office HLM pour que le problème cesse, eh bien, il y a eu un conflit qui s'instaure entre la population et les institutions et une panoplie énorme de conditions de vie de ces populations sont entre les mains des institutions. Le sport, la culture, la santé, l'éducation, le transport, le loisir, l'école, ça vient d'être dit, la police. Mais avec un élément fondamental qui est à l'extérieur de l'action publique locale, c'est le marché du travail. Et donc, c'est une question sociale qu'on cherche à résoudre sur le plan urbain. Une dernière chose pour mettre à la parole de circuler. Dans les années 80 et les années 90, il y a un changement de théorie dans la manière de penser la question urbaine dans son lien avec la question sociale. Pour revenir à des questions théoriques, l'école de Chicago débarque très tardivement en France, ce qu'on appelait autrefois l'écologie urbaine, c'est-à-dire... les êtres vivants sont tributaires de l'espace où ils vivent. Si vous mettez une plante avec peu d'eau, elle aura des feuilles différentes que si vous le mettez dans un lieu humide. Et donc on pense les êtres humains de cette manière-là. On va modifier l'espace pour changer la société. Et d'une part, ça va appauvrir l'urbanisme et l'architecture qui va être amputée de ses considérations culturelles, et notamment politiques et sociales. Et on réduit l'emprise du pouvoir public sur la société en voulant faire que on va rendre plus beaux les quartiers et tout ira mieux. Les dernières émeutes, tout le monde est très étonné de voir les journalistes de la presse étrangère, par exemple, viennent nous voir pour nous dire « mais ce sont des quartiers magnifiques ». Parce que là, les rues sont passées par là, parce que la rénovation urbaine, il y a 10 000 plans depuis longtemps. Et on nous dit, justement, cet investissement colossal. Mais on a énormément fait. Comment c'est possible? Mais le problème, c'est que la police vient de tuer un jeune. C'est pas que les bâtiments sont moches. Le problème, ce n'est pas que la bibliothèque dysfonctionne. La police vient de tuer un jeune avec son arme de service. Ça a été filmé et transmis dans l'immédiat. Et donc, il y a un problème de démocratie. Ce n'est pas un problème de s'il y a des ascenseurs en panne.
Alors, le journaliste Xavier Jarcy, une réponse à une...
Alors, à ce sujet, donc, la police vient de tuer un jeune. Moi, je voudrais rappeler aussi qu'il y a 40 ans, c'était la marche pour l'égalité et contre le racisme. Exactement 40 ans. Qu'est-ce qui se passe il y a 40 ans? Donc, en 1983, au Minguette, à Vénissieux. La police tire sur un jeune qui s'appelle Toumi Djaïdja. Donc, même contexte, hein, déjà, il y a 40 ans. Voilà, un jeune qui s'interpose parce qu'il y a un autre jeune qui est agressé par justement le chien du policier. Donc, en réponse, le policier sort son pistolet et tire sur Toumi Djaïdja, qui avait déjà créé. Avant cet événement, l'association SOS Avenir Minguette pour dénoncer le harcèlement policier dont les jeunes étaient victimes. Donc ça confirme ce que vous dites. Et c'est comme ça que démarre cette fameuse marche qui se termine au mois de décembre, exactement, il y a 40 ans. Donc la question, elle existe déjà il y a 40 ans et on voit qu'elle n'a pas évolué dans le bon sens.
Guy Burgel.
Non, juste pour dire peut-être deux choses. Un, je crois qu'il ne faut pas confondre l'étincelle et la charge explosive. C'est-à-dire qu'un jeune qui est tué par la police est insupportable moralement, humainement, etc. Mais c'est quand même pas ça qui fait que la chose explose. La chose explose parce que la situation est explosive pour moi. La situation est explosive quand on concentre finalement, pendant des générations, à la fois du sous-emploi, du chômage, de l'échec scolaire, et une absence. Moi je crois à la mobilité sociale, je crois pas à la mixité résidentielle, mais quand même, quand il n'y a pas de mobilité sociale et pas de mobilité résidentielle, c'est ça la charge explosive. Et la deuxième chose que je voulais dire, donc, oui, c'est la situation en France, mais d'une manière générale, et ça explique finalement cette espèce de contradiction entre, bon, on a fait du beau, Et là, Roland Castro serait là encore, il dirait, ben, il faut faire du beau pour les pauvres. Oui, mais il ne suffit pas de faire du beau pour les pauvres, pour finalement les élever et faire que leurs enfants, leurs petits-enfants soient mieux, dans une meilleure condition sociale. Bon, et puis, la deuxième chose, alors là, que je voudrais dire à notre collègue sociologue, et moi j'approuve, on ne fait pas assez de terrain. Hein. Moi-même, bon, je n'ai plus l'âge, évidemment, et plus les capacités en termes d'équipe, mais il faudrait... parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite, finalement, pour les émeutes de juin et du début juillet 2023. C'est qu'il n'y a pas que les quartiers populaires qui ont éclaté. On a tiré des mortiers d'artifice en plein 14e arrondissement. C'est quand même pas un grand ensemble, c'est pas les 4000. Bon, donc, pourquoi ? Et moi, je maintiens, il y a à la fois des mesures de très long terme. On ne va pas. Bon, notre ministre de l'Éducation nationale, et je salue ses efforts, en tout cas verbaux, bon, veut réformer l'éducation nationale. Mais oui, encore une fois, l'échec de l'école, mais...
L'échec de l'école est une des causes de ce malaise.
Mais il va falloir des décennies, des lustres, au sens strict du terme. Alors, bon, mener des enquêtes de terrain immédiatement sur les points chauds, ça c'est possible.
Je sais pas si ça a été fait, hein, clairement. Alors, vous parlez de Roland Castro, justement. Alors, je voudrais qu'on écoute un peu ces... Roland Castro, je rappelle, c'est une figure de l'architecture. Un des premiers à s'être attaqué à la question des cités dans les banlieues, c'est l'une des figures de l'opération Banlieue 89, il est auteur d'impressionnantes transformations des cités. Alors, il est décédé il y a peu, hein, le 9 mars dernier, et il a pu transmettre son agence qu'ils avaient ensemble rebaptisée Atelier d'urbanité. Donc à ses deux associés, Suzanne Alagic et Gérard Lui, qui poursuivent cet engagement pour réparer, si on dit comme ça, les cités. Alors ils ont un regard un peu différent, peut-être un peu optimiste sur cet héritage parfois difficile. On les écoute.
Il y a 30 ans, ou même plus de 30 ans, quand Roland s'intéresse au sujet, la banlieue, ça n'intéresse personne. Ces grands ensembles, ils avaient des qualités. Quand ils ont été construits, ils apportaient du confort, ils apportaient du vrai confort, hein, des sanitaires, de la lumière, voilà. Donc même des espaces verts qui n'ont pas toujours vu le jour, mais bon, voilà, il y avait quand même ces qualités. Mais c'était très très homogène, c'était pour tout le monde pareil. Il y a des immeubles que l'on trouve en banlieue française qui sont habités par des bourgeois ou des gens aisés et qui adorent ça. Parce que qu'ils retrouvent les qualités paysagères, les vues, le soleil. On parle de la banlieue quand ça brûle. On parle de l'immigration quand il y a un fou qui a poignardé quelqu'un dans la rue. On parle jamais de l'immigration à succès. Toutes les associations qui travaillent pour l'aide à l'immigration. Tout ça, on n'en parle jamais. Ce que je regrette, que face à ces mouvements de révolte, on agite que la bombe lacrymogène et les bâtons. Je veux dire, au moment où on ne se pose pas les questions, mais pourquoi on en arrive là ? Je vois comment c'est traité, et je vois qu'on fabrique des gâteaux, dans des endroits où ça ne l'est pas encore. Mais on aura le faire. Par l'enfermement, par le manque de mixité, par la manière de gérer l'espace public... Est-ce que c'est vraiment simplement un sujet urbain et un sujet d'architecture ?
Moi, je pense qu'on peut et il faut les réparer. Il n'y a absolument aucune raison qu'elles ne puissent pas avoir et connaître une nouvelle strate dans leur histoire et dans leur récit à la ville. Il y a des qualités quand même qui sont aussi de l'ordre du paysage, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est quand même des lieux qui ont aussi... beaucoup d'espaces libres, de qualité dans les vues, dans le dégagement. Elles ont quand même été construites de façon tellement univoque. C'est des bâtiments reproduits en série, au kilomètre, disposés avec des normes nord-sud, sans tenir compte du contexte. Qu'on habite un plateau, une vallée ou une impasse de ville, c'est la même chose. On a disposé et mis en place des habitats qui, en aucun cas, n'ont pris en considération la place de l'habitant. ton quartier, c'est la ville. C'est pas un morceau, c'est pas une banlieue. Où il y a quand même mille et une façons de les ouvrir à la ville et de les faire participer au récit de la ville. C'est devenu des bâtiments collectifs, mais collectifs, ça veut pas dire grand-chose, puisqu'en fait, les gens, ils vivent pas ensemble.
Donc je pose la question de la gestion de ces ensembles urbains, et c'est pas forcément une question d'architecture, ni d'urbanisme.
Alors, on vient d'entendre ces deux architectes urbanistes. Xavier de Jarcy, ces regards sont assez intéressants. Selon eux, les cités ont quand même des qualités indéniables. C'est pas forcément le problème. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire de ces cités des cadres de vie agréables, par exemple?
Alors moi, ça me fait penser aux expériences d'Émile Ayot, justement. C'est ce qu'il a essayé de faire. Il était totalement contre la logique des grands ensembles, de la charte d'Athènes. Il a voulu recréer la ville à l'ancienne, avec des formes modernes, hein, avec ces espèces d'ondulations, ces décors colorés. Il y avait des sculptures, des mosaïques sur les murs. Enfin, tout ça était très étudié. Il a réalisé donc notamment la Grande Borne à Grigny. Et puis la Noé à Chantoux-les-Vignes, et ça s'est très mal passé. Mais pour tout un tas de raisons qui ne dépendent pas de lui, en fait. À la Grande Borne, il y a eu... Alors c'est une histoire qui est très complexe, parce que, en fait, il y a un premier grand ensemble, la Grande Borne, qui est construite à Grigny. Mais il y en a un deuxième, Grigny 2, qui fait que la population de Grigny explose. On passe de quelques milliers à presque 30 000 habitants. La commune n'a absolument pas les moyens d'assumer ça. Donc elle est mise en faillite au début des années 70, il faut s'en souvenir. Il y a énormément de malfaçons, parce qu'on a construit trop vite. Il fallait loger la population de l'Île-de-France qui explosait. Donc on a un petit peu triché sur la qualité... de la construction, il y avait des fuites, il a fallu tout réparer, ça coûtait très cher. Les équipements publics n'étaient pas là. Et à Chantoux-les-Vignes, c'est pratiquement la même chose. Et là, il a encore voulu accentuer ce contraste avec les grands ensembles en faisant une ville à l'italienne avec des petites placettes, un peu labyrinthiques comme il aimait faire. Donc un modèle très original, pas du tout standardisé, etc. Et ça se passe très mal parce que il y a tout un... Alors là, il y a des problèmes de corruption politique qui s'y ajoutent. Les habitants... Donc la moitié du programme est amputée, ce qui fait qu'on ne construit pas... Une fois de plus, on ne construit pas les équipements publics. Et finalement, les gens arrivent dans une cité qui n'est pas terminée. Personne n'a envie d'habiter là, donc le bilan financier désastreux, etc. Et ça se dégrade très vite et ça aboutit à la haine en 94, 95.
Juste un rappel, tout ça c'est écrit dans votre bouquin, vous pouvez peut-être le montrer parce que il est passionnant. S'il y a une caméra qui est là devant vous, là, voilà, mettez-le comme ça, par là, ici.
Voilà.
Voilà, Les Abandonnés, Xavier de Jarcy. Alors je vous recommande vraiment ce bouquin parce que il retrace un peu quasiment jour le jour toute l'histoire de la construction des cités et c'est passionnant.
Malgré tous les efforts de l'architecture, il y a tout un tas d'autres paramètres qui doivent entrer en compte. Et alors, si je reviens sur Chantoux-les-Vignes, dans les années 80, cette cité est considérée, alors là j'ouvre les guillemets, comme le dépotoir de la banlieue parisienne. Mm. C'est l'expression pratiquement... C'est employé dans la presse, ce mot dépotoir. C'est-à-dire qu'on y envoie tous les cas sociaux du département des Yvelines, en gros, avec la complicité des maires et du préfet. Et donc, évidemment, cette accumulation de difficultés fait que ça se passe très mal.
Ça se passe très mal.
Moi, j'avais juste une réflexion là, parce qu'on parle de la forme urbaine, mais il y a deux autres éléments qui sont quand même très très récurrents dans les problématiques des quartiers. C'est le transport, c'est l'enclavement, c'est le fait d'avoir construit des morceaux de ville qui étaient souvent déterminés par la position d'un bassin d'emploi très proche, une usine, un centre où on allait exploiter directement la, le, quand on est à la Courneuve notamment, il y avait des usines ou à Aulnay, on a ces rapports-là qui fonctionnaient vraiment. Il y avait l'usine où on faisait le grand ensemble à côté et il y avait une relation. Donc dès que l'usine a fermé, on s'est retrouvé avec des quartiers entiers de gens qui avaient plus de travail, mais qui étaient coupés aussi des transports. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe de refabriquer ce Grand Paris Express là, qui a pour but de faire une nouvelle, un nouveau bouclage autour de la ville, essaye de lutter avec 30 ans de décalage par rapport à ce problème des années 70, 80, 90 d'avoir des grandes zones urbaines mais complètement enclavées. Montfermeil par exemple, le fameux qui a été l'objet de beaucoup d'émeutes, il faut plus de temps pour aller à Montfermeil entre Paris et Montfermeil que pour aller de Montfermeil de Paris à Bordeaux. Ouais. C'est complètement dingue cette réalité-là.
Oui, simplement pour abonder dans le même sens, je me souviens d'une... On a évoqué un disparu aussi. Philippe Panneret me fait visiter, il y a 15 ans, Sarcelles, que je ne connaissais pas. Bon, pour moi, Sarcelles, c'était la sarcellite, c'était bon, les vagues de suicide, le mal-être urbain. Et il me dit, mais pas du tout. Ça a été conçu par un Grand Prix de Rome, la Bourdette, si mes souvenirs sont bons. Des immeubles, en effet, je vois, des immeubles en pierre de taille, avec des péristyles, avec une pièce d'eau. Alors, la pièce d'eau était complètement, évidemment, à sec, et avec des caddies jetés au milieu de la pièce d'eau. Autrement dit, pour faire mentir un petit peu l'âme de Roland Castro, la beauté ne fait pas tout. J'insiste là-dessus, quoi. Au fond, c'est la société. Comment fait-on société? Et ça, c'est un problème. Parce que depuis l'échec, finalement, sanglant, si j'ose dire, et cinglant de l'Union soviétique, on ne peut pas faire la révolution sociale pour réformer la société. On est bien obligé de passer par le biais spatial. C'est ça. Et moi, comme géographe, j'y suis très sensible. Le biais spatial, dont on sait bien qu'il est quand je dis spatial, c'est morphologique, matériel. Dont on sait bien qu'il est nécessaire, mais il est insuffisant.
Et alors, du moins, Denis Marclain, vous êtes vraiment dans le sujet des habitants et de la vie, et de la prise en charge de ces problématiques par des initiatives.
Oui, il y a, j'ai envie de dire deux choses. L'une concerne les effets de la mobilité sociale et de cette idée d'enclavement. La sociologie s'est permis à un moment, peut-être de manière un tout petit peu exagérée, de parler de ghetto. Ghetto urbain, etc. Il y a un effet de la mobilité sociale qui s'est traduit par un effet sur le groupe, sur ce que les gens disent quand vous allez les voir. Et l'une des choses qui se passe, c'est qu'il y a une mobilité sociale importante, mais que les gens qui, disons, progressent dans leur situation, dans leurs conditions, s'en vont du quartier. S'en sortir, c'est quitter le quartier. Le rêve de toute famille, c'est faire réussir dans l'école ses enfants pour qu'ils puissent partir, quitter les lieux. Ce qui fait que, par la forme dont le peuplement de ces espaces est fait, et ces gens-là sont remplacés par des gens dont la condition sociale est moins bonne, et c'est absolument normal et naturel, si je peux dire comme ça, parce que le dispositif, c'est un dispositif de l'État social, c'est du logement social, et donc c'est une extension de la protection sociale pour les plus faibles. Donc, ceux qui vont mieux s'en vont et arrivent des gens qui sont dans une condition plus précaire. Le résultat, c'est le résultat de la réussite du dispositif, c'est une population qui est de plus en plus précaire, avec un sentiment d'enfermement. Et il y a un certain décalage aujourd'hui. Le taux de chômage a baissé, mais il y a un certain décalage entre le dispositif scolaire. Ce que les gens vous disent, c'est beaucoup de jeunes, une partie des jeunes vous dit, ça ne sert à rien de faire des études. Mon frère, mon cousin a le bac, et à quoi ça lui sert? Il a un travail qui n'est pas digne d'être un travail. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas comment faire en sorte que les gens quittent la classe sociale, mais que ce groupe social vive mieux dans ce type de travail. C'est-à-dire, comment le caissier de supermarché peut avoir un avenir prometteur, mais pas parce qu'il cesse d'être caissier du supermarché, tout en l'étant. Comment le vigile peut se sentir bien dans le monde qu'il habite à travers le travail qu'il fait, parce qu'on ne peut pas prétendre que tout le monde cessera d'être éboueur, caissier de supermarché, vigile, distributeur à vélo, etc. Et donc, l'impact de l'économie ubérisée, ce qu'on appelle l'économie ubérisée, est colossale. La proportion de l'emploi précaire dans ces espaces sociaux a explosé suite à la diffusion de ces nouvelles technologies et à la transformation qu'elles ont sur le marché du travail. C'est un impact énorme. Et donc, le problème, ce n'est pas comment faire pour que ces gens-là fassent des études supérieures et trouvent une autre qualité de travail. Ça, c'est une solution individuelle. L'émeute, c'est l'expression d'un groupe social. Ce n'est pas l'expression des individus. Et elle constitue un groupe social. Le problème que nous avons, c'est que l'architecture, l'urbanisme et tous les dispositifs sociaux visent des individus et oublient de constituer un collectif. Le problème que nous avons, c'est que ce morceau des classes populaires, les classes populaires se segmentent, elles perdent la relative unité que la classe ouvrière leur avait conférée. Et donc, ces espaces cessent d'être un dispositif de la démocratie sociale pour protéger la portion la plus faible de la population, pour devenir un segment qui s'exprime et se constitue territorialement, et donc elle ne peut pas faire grève, la manifestation est inutile à leurs yeux, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien,
brûler des bibliothèques.
Bah oui, quand ça dépassera des limites, ils viendront dans l'espace public sans parole, par des actes qui ont un caractère symbolique, pour dire « et alors ?»
Guy Burgel.
Oui, je crois qu'on est au cœur là vraiment du sujet. Il faut tordre le cou une fois pour toutes à cette notion de mixité résidentielle. La mixité résidentielle, c'est l'inertie. Ce n'est pas le. Il y a même, bon, lors d'un séminaire récent que j'animais, nous avions le maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc, bon, qui montrait très bien, qui disait mais moi, si je dis à mes gens de Gennevilliers, 70% de logements sociaux, qu'il faut qu'il y ait un embourgeoisement, mais ils vont me dire mais nous, on est quoi ? Donc, inversement, le problème a commencé quand, finalement, il y a eu un enfermement résidentiel. Le fait que les gens de la classe moyenne, disons, blanche, française, entre guillemets, quittaient le grand ensemble, c'était plutôt positif. Mais il fallait qu'il y ait ce mouvement qui de continue, finalement, de promotion par le départ. Pourquoi pas ? Et là, il y a eu un enfermement. Et donc, je crois encore une fois que c'est là le véritable problème, il est là. Et il faut retrouver finalement l'école. Et dernière chose, je voudrais citer, puisqu'on a cité beaucoup de livres, il y a un merveilleux livre d'un de vos collègues, Stéphane Beau, je crois, La famille Belloumi, qui montre très bien comment finalement, notamment dans les années 70 et les années 80, la promotion scolaire par les filles a été un ferment finalement d'intégration urbaine. Alors, il faut faire du beau, mais il faut faire aussi de l'utile professionnellement et civiquement.
Xavier Dujarcy.
Oui, moi je voudrais quand même faire deux remarques. Alors, sur la forme urbaine, si les classes moyennes ont quitté les grands ensembles, c'est aussi parce qu'on leur a promu la maison individuelle. Et d'ailleurs, tous les sondages depuis la libération montraient que c'est ce que les gens voulaient. Hein. Donc.
C'était incité par Raymond Barre, ça a été incité par
Chalandon,
en
1970.
Et c'était ouais,
c'est
promu,
la promesse de Sarkozy ouais. aussi, une république des propriétaires.
Ouais. Mais alors là, attention, parce que le statut de propriété ou location, ça n'a pas tellement d'influence, parce que vous avez des grands ensembles privés, par exemple Grigny 2 ou Montfermeil, c'est des copropriétés. Donc c'est une société de propriétaires. Hein. Et pourtant, ça marche pas non plus.
Alors, je vais revenir justement.
Et puis il y a autre chose que je voulais dire, c'est quand même, il faut pas oublier le problème du racisme, hein, parce qu'il y a des gens qui se sentent assignés à résidence à cause de l'origine. Quand vous êtes pauvre et que vous habitez un village pauvre de la Creuse, on vous dit pas ah mais quand vous cherchez du travail, on vous dit pas ah mais vous venez de telle cité donc on va pas vous prendre. Alors que quand vous êtes pauvre et que vous venez que vous êtes un immigré ou un enfant d'immigré et que vous habitez telle cité, eh ben vous subissez de la discrimination. Voilà, ça, il faut quand même le rappeler.
Alors justement, je voudrais revenir, puisqu'on parle d'architecture, et rapidement, parce que là, on arrive un peu à la fin. On parle de transformer ces cités, d'intervenir. Les architectes veulent un peu. Et d'ailleurs, dans le prochain plan programme banlieue 2030, il est prévu de détruire 110 000 logements. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Non, il y a la crise.
Voilà, mais et reconstruire bien sûr 250 000 logements. Mais ça passe par de la démolition, du remaniement, etc. Alors, vous avez peut-être déjà vu, en tout cas, je vous conseille le film de Lajli, Bâtiment 5. Ouais. Qui est une tornade sociologique et architecturale, je pense, en tout cas pour nous, où là, ils empêchent tous de détruire un bâtiment, et on voit à quel point ça soulève tout un enchaînement de conséquences avec les élus, avec les malversations, avec bon, c'est un peu ça reprend un peu tout ce que vous dites là, mais ce livre, ce film reprend tout ça. Donc est-ce que on est prêt à démolir ces cités, en tout cas en casser en partie? Est-ce qu'on est prêt à manipuler un peu architecturalement et urbainement ces cités pour les améliorer?
Qu'est-ce que ça veut dire les améliorer? Ça veut dire est-ce que ça veut dire chasser les pauvres plus loin? C'est ça, ouais, parce que c'est ça
qu'ils disent, en fait. Ils disent, voilà, moi, ce que vous êtes, vous nous chassez, nous mettre plus loin.
Et je ne suis pas l'écologique de service, mais c'est un désastre écologique.
Oui, en plus, sur le plan environnemental, c'est une catastrophe.
Mon dernier livre, c'était « Sauver la planète ville », il y avait un clin d'œil. La crise urbaine et la crise écologique, c'est la même crise. Donc, outre le fait qu'on ne va pas résoudre le problème de la pénurie de logements qui est criante, encore une fois, dans notre pays, on va accroître, encore une fois, le désordre écologique. Donc, économisons de l'espace, économisons des bâtiments. Moi, je vante, écoutez, l'opération que Lacaton et Vassal ont faite,
oui,
sur la tour Bois-le-Prêtre,
oui,
à la porte Pouchet, qui est une merveille, montrer comment une tour promise à la démolition, on n'est pas très loin du film de Lajli, bon, va être sauvée par l'accrochage de véranda qui fait finalement d'une tour...
Pritzker, grâce à ce projet, entre autres.
Une tour panoramique. Donc on peut... Là, moi, je crois au génie de l'architecte.
Donc voilà, on peut, mais excuse-moi, on peut pas. L'architecture est liée, mais en même temps, elle est pas liée. Mais bon, on est quelqu'un, on touche à un sujet qui m'intéresse.
Tout dépend de ce qu'on demande à l'architecte. On peut pas demander à l'architecte de résoudre les problèmes de police.
Non.
Mais on peut lui demander de faire un habitat qu'on n'ait pas envie de quitter, justement. Il n'y a rien de plus reposant dans la vie d'une personne que de pouvoir retourner chez soi quand on est vieux. Je m'approche. Et donc, pour ces habitants, écoutez ce qu'ils disent quand ils chantent, par exemple. Banlieusard est fier de l'être, c'est un thème récurrent dans la culture hip-hop. La fierté d'habiter un espace dans lequel on s'est constitué et dans lequel se forme le groupe auquel on appartient. J'aime pas le mot identité. Dans ma sociologie, je l'emploie très rarement. Mais il y a effectivement la nécessité d'appartenir à un collectif, notamment quand les mécanismes d'intégration sociétaux font défaut, fonctionnent mal. On est une société qui produit de manière faible de l'intégration sociale pour tout un tas de gens. Eh bien, ces gens ont besoin de constituer des collectifs. Et l'une des manières de le faire, c'est à travers le quartier. La figure du quartier est une figure précieuse, qui ressurgit. Il faut la respecter. On a l'impression que les plans de rénovation urbaine visent l'impossibilité de se constituer en collectif autour du territoire. Et c'est le contraire qu'il faut faire. Les dessins qu'on voit dans les maquettes digitales, numériques de dessins, ce sont des individus qui se baladent dans un espace vide. Jamais de la vie collective dans l'espace collectif. Et on a une espèce d'aversion. Dès qu'il y a trois jeunes dans un coin de rue, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes qui tiennent les murs? Pourquoi ils sont là? Ils n'ont qu'à rentrer. Il faut circuler dans l'espace, jamais s'y poser.
Je reprends votre enquête, parce que donc, les invisibles qu'on trouve sur Internet...
Les indispensables.
Les indispensables. Alors là, le lapsus, c'est...
ils sont tous sauf invisibles,
voilà.
Les miens.
Les indispensables, voilà. Et on voit que... on écoutait les architectes tout à l'heure dire qu'on parle très peu de ces militants des cités, ces indispensables, comme vous dites. Et est-ce que c'est pas là le... Est-ce que ces cités sont pas, c'est pas le terreau d'un nouveau type de militantisme ou s'il y a un nouveau type de musique, de danse, de cinéma, est-ce que c'est pas aussi un terreau de fertilité créative?
Absolument, absolument. Il y a des énergies extraordinaires qui, et là, c'est l'un des beaux effets de la politique de la ville, parce que c'est ce tissu associatif, c'est formidable monde associatif qui travaille dans les quartiers populaires, pas que dans les cités, est aussi un effet de la décentralisation, du transfert vers l'échelon local et de la politique de la ville qui sollicite donc l'organisation sociale, l'association, dans, comme partenaire de l'État ou de la puissance publique, si on préfère. Et donc là, il y a effectivement une créativité extraordinaire, souvent avec très peu de moyens. On met en place des dispositifs comme par exemple les emplois d'avenir, le gouvernement suivant les coupes, les associations restent sans savoir quoi faire, c'est un monde très instable. Et donc voilà, de deux choses l'une, si on veut soutenir cet univers-là, il faut le soutenir de manière stable et durable pour qu'il puisse se pérenniser et tenir dans la continuité. On ne peut pas le déstabiliser à chaque fois. Le gouvernement, disons, l'arrivée du président Macron au pouvoir est venue avec une conception libérale du monde où, entre l'État et les citoyens, ils ne doivent rien avoir. Tout ce qui sonne ou qui puisse avoir un parfum d'intermédiation entre l'individu et l'institution est suspect. Et donc, on a séché ce monde-là. C'est pour ça que j'ai enquêté pendant une petite dizaine d'années pour dire... C'est dans la configuration actuelle de notre démocratie, ces associations et ces militants sont indispensables.
Petit mot de la fin peut-être avant de terminer. C'est un peu devenu, ces cités sont devenues une partie intégrante de la vie moderne, quoi qu'on en dise, ils sont là. Et Guy Burgel, dans le micro.
C'est pas si le mot de la fin, mais il n'y a pas une relation directe entre la forme matérielle de la ville et le bonheur des habitants. Moi, je crois qu'il faut tordre le cou à cette idée.
Mais l'architecture peut permettre de résoudre quand même certaines choses.
Mais il y a des villes, il y a des architectures. On est en train de réhabiliter le pavillonnaire Loucheur. Enfin, il y a eu tout un article dans Le Monde du mois de juin dernier montrant que tout ce qu'on pouvait faire, alors que c'était le ça me suffit, c'était le déshonneur de l'architecture. Mais non. Non, moi je crois que, et là j'abonde tout à fait avec ce que notre collègue sociologue disait, en fait, compte, c'est ces intermédiations sociales, mais avec le politique, j'insiste. S'il n'y a pas une volonté politique, il n'y aura pas une réforme de la ville. Ça, moi, j'en suis persuadé.
Alors, je laisse maintenant sur ces paroles la parole à Dominique Bauret, président d'honneur de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, pour le nouvel agenda architecturel de ce mois. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors, des belles expos qui manquent pas de soupe.
Avant cela, je voulais effectivement confirmer. Enfin, ça a été une de mes grandes interrogations, c'est que les émeutes urbaines de juin ont éclaté à Nanterre, là où il y a eu un effort urbain et de rénovation de rebeauté du paysage considérable.
Oui, les terrasses de Nanterre. À 100 mètres de la préfecture, en plus.
À 100 mètres de la préfecture, avec les terrasses de Nanterre, bordées d'immeubles d'habitat social ou de copropriétés d'architectes renommés, et la rénovation de toute la gare Nanterre Université, de tout le quartier autour, avec cette maison des associations et des jeunes de Bouchain. Et ça a été une... J'y ai travaillé, donc c'est pour ça. Ça a été une de mes grandes stupéfactions. Effectivement. Et là, et pour vous dire que tout ce que vous venez de dire, effectivement, c'est la réalité, c'est confirmé. Et cette émeute-là, c'est pas Montfermeil, c'est pas la Grande Borne. On est desservi par deux gares RER, on est à 5 minutes de l'Opéra, enfin bon.
Alors qu'est-ce qu'il faut aller voir ce mois-ci, la dernière fois?
Alors d'abord, il faut lire.
Il faut lire.
Voilà. Il faut lire. Alors c'est une future crise. L'annonce d'une future crise. Il faut lire le livre d'Emmanuel H. et de Benjamin Louvet, qui s'appelle Le métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie. Spécialisés des matières premières et de leur géostratégie, les auteurs exposent en pleine lumière les tonnages gigantesques de métaux requis par la transition énergétique dans les années à venir. Ceci pour remplacer les hydrocarbures dans la future économie de l'énergie. Or, la France ne dispose pas de tous les métaux dont elle a besoin, et surtout pas dans les quantités nécessaires. En outre, on connaît assez mal notre sous-sol. La dernière étude de l'inventaire minier national remonte à la fin des années 70. Depuis, il n'y a pas eu de recherche spécifique. Cela s'explique pour des raisons juridiques. Aux États-Unis, quand vous achetez un terrain, vous êtes propriétaire du sous-sol, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, vous avez intérêt à l'explorer. En France, donc, ce n'est pas le cas. On sait d'ores et déjà qu'on a des réserves de lithium, d'or, de nickel, d'antimoine, qui font partie des métaux nécessaires pour toutes les technologies modernes et numériques. Voilà, notamment ça, que nous avons tous autour de la table. La liste des métaux critiques établie par la Commission européenne est au nombre de 51. Cependant, nous serons dépendants, de l'étranger, notamment de la Chine, qui raffine plus de 85% des terres rares du monde, presque 70% du cobalt mondial et plus de 50% du lithium. En revanche, on a des zones montagneuses géologiquement intéressantes, le Massif central et armoricain, le cœur de la chaîne des Pyrénées, la chaîne alpine et les Vosges. C'est-à-dire que dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, on pourrait voir en France de nouvelles mines s'ouvrir. Et là, je pense que ça va être un vrai problème. Car la mine souffre d'une image très mauvaise, on a tous en mémoire Germinal, je ne vais pas m'étendre. A-t-on vraiment le choix si on veut pouvoir assurer une certaine souveraineté de notre système énergétique? Sinon, ça veut dire que l'on veut les bénéfices de la transition énergétique, mais aucun de ses inconvénients. Ce qui pose du coup un problème éthique, puisque donc on va délocaliser les mines pour continuer à se servir de nos voitures électriques, nos iPhones, etc. etc. Ce livre a reçu le prix Marcel Boiteau de l'Association des économistes de l'énergie 2023, et c'est vraiment à lire, parce que c'est très intéressant. Et c'est très intéressant, d'autant plus que les écologistes n'en parlent jamais.
Et alors, donc, très rapidement, pour terminer, donc une exposition qui démarre aujourd'hui, je crois.
Une exposition qui démarre aujourd'hui, je vais aller vite, Le souffle de l'architecte, à la Fondation Cartier, qui fait toujours des expositions des architectes absolument remarquables. Je vais mal le prononcer, c'est un architecte indien du studio Mumbai en Inde, qui est fondateur du studio Mumbai en Inde, qui s'appelle Bijoy Jain. Donc c'est absolument à aller voir, parce que j'ai eu la chance de pouvoir assister au montage, et c'est assez remarquable. Je ne vais pas m'étendre, parce que c'est un univers totalement onirique, mais qui quand même s'appuie sur des sculptures en pierre ou en terracotta, qui montrent des façades d'habitat vernaculaire indien, des panneaux enduits, des structures en bambou inspirées des tasias, qui sont des monuments funéraires portés sur les épaules à la mémoire d'un saint lors des processions musulmanes chiites.
Donc Jerzy, vous y allez tout de suite là pour à la fin de cet enregistrement pour préparer un papier qu'on aura le plaisir de lire dans Télérama.
Tout à fait.
Voilà, c'est pour ça que j'ai raccourci mon propos. Je
laisse. Mais écoutez, cette émission tout s'achève.
Télérama. Non, j'ai deux choses à dire. Encore absolument. Voilà. Il y a deux expositions. Enfin, il y a deux balades à faire pendant les vacances de Noël avec vos enfants, vos petits enfants. Avec qui vous voulez, ou même vous d'ailleurs. Les mondes disparus au Muséum national d'histoire naturelle. C'est une expérience en réalité virtuelle et vous vous baladez au milieu des dinosaures, des mille-pattes, des reptiles marins, de tous ces animaux qui ont disparu. C'est époustouflant, assez impressionnant. Voilà. Et puis, au Jardin des Plantes, il y a une exposition, comment on appelle ça, de nuit. Avec les illuminations d'animaux et de forêts et de plantes de forêts tropicales qui sont absolument c'est très poétique et très féerique, et ça c'est vraiment à faire pendant les vacances.
Merci Dominique Bourret pour cet agenda. On a tous pris des notes et on va s'y ruer. Merci Xavier Jarcy, merci Denis Merklen et Guy Burgel.
Merci
à David Trottin et Dominique. Merci à Théo et toute la technique. Merci à RX France pour cette parole accordée. N'hésitez pas à nous réécouter en podcast sur tous vos players habituels. Et je vous dis à très vite.
Prisme, l'émission d'architecture qui fait société.
présenté par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.